RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. C'est parti pour les GG pour les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Je vous présente les trois grandes gueules qui vont discuter, qui vont débattre avec vous bien sûr au 32-16 aujourd'hui. Nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot. Bonjour Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Antoine Diers, le consultant juridique, est avec nous. On a Vierzon et Dunkerque qui sont là. Bonjour Antoine.
Salut Alain et bonjour à tous.
Et puis la région parisienne avec Fatima Aïd Bounois, notre prof de français. Bonjour Fatima.
Bonjour, bonjour les grandes gueules de l'ombre et bonjour Josiane, parce que figurez-vous. Ah. Qu'après l'émission que nous, nous avions, enfin juste après l'émission, j'avais rencontré une Josiane, couturière.
Et on cherchait une Josiane.
Adorable. Non, non, mais je l'ai croisée après, mais par hasard. Donc c'était très beau. Donc je l'embrasse, j'embrasse son fils. Elle est extrêmement courageuse parce que.
Elle s'appelle Josiane.
Et elle s'appelle Josiane et elle est incroyable. Elle a une vie digne d'un livre et d'un film parce que elle travaillait. C'était les petites mains de l'ombre dans la couture.
On embrasse toutes les Josianes, y compris celles qui travaillent dans la fonction publique.
Alors, de quoi va-t-on discuter, de quoi va-t-on parler dans les GG, dans les grandes gueules aujourd'hui, avec vous bien sûr, au 32-16. On a des bons petits sujets de discussion qui vous attendent. On recevra Jean-François Copé tout à l'heure à 11h parce qu'on parlera avec lui, Jean-François Copé, du populisme, ces populistes qui trahissent le peuple, Rassemblement National ou France Insoumise. On reviendra sur ce gamin qui s'est fait étrangler à Rennes par ses deux copains, simplement pour un différend sur les leurres de pêche. Ils étaient sur les bords de la Vilaine, ils pêchaient, ils se sont embrouillés pour des leurres de pêche et il est mort, ce gosse de 11 ans, à cause de ça. Ça nous interroge une fois de plus sur la violence des gamins aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un grand plan climatisation en France pour pouvoir affronter les canicules futures? Mais on va commencer aujourd'hui par une bonne nouvelle. Il y a comme un air de fête, vous ne le sentez pas aujourd'hui?
Rouler jusqu'à frôler 200 à l'heure, bloquer les grilles du compteur, faire d'établir des performances.
Parce qu'elle est là. La prime pour les gros rouleurs, elle arrive. Les 100 euros pour les 3 millions d'automobilistes, c'est disponible à partir d'aujourd'hui.
Alors je ne sais pas d'ailleurs si on dit gros ou grand rouleur.
Oui, t'as peut-être raison. Il y a une espèce de discrimination.
Ça
n'a
rien à voir avec les rouleurs obèses. Hein. C'est des gros rouleurs, ça veut dire que tu prends ta voiture tous les matins et tu fais plusieurs kilomètres pour aller travailler.
Tu fais les gros rouleurs
de ni les rouleurs de Ouinges.
Et ni les rouleurs de Ouinges. Hein. Ils sont nombreux en France. Non. Alors, ça avait été annoncé par le gouvernement Le Cornu.
N'importe quoi.
C'est destiné aux travailleurs modestes. Hein. On le sait. Ça y est, c'est en place. Vous allez sur le site impots.gouv.fr. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, pour y avoir droit, attention, hein, parce que c'est vrai que ça serait plus simple de baisser les taxes. Mais quand c'est simple, en France, on n'aime pas. Donc, on a compliqué. Donc, il faut être domicilié fiscalement en France, avoir au moins 16 ans, être salarié ou indépendant, avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 euros par mois, donc toucher en gros 1 500 euros par mois. Pour un célibataire, ce sont les revenus de 2024 qui comptent. Donc, il faut votre avis d'imposition pour les revenus 2024. Il faut faire plus de 15 km entre votre domicile et votre travail. Elle est simple. Alors ça, c'est du déclaratif. Hein. Donc, 30 km dans la journée. Donc, ça veut dire parcourir plus de 8000 km par an. Mais ça sera peut-être vérifié a posteriori. D'ailleurs, les impôts disent, attention, il y aura des contrôles.
On veille.
Le montant annoncé sera en moyenne de 50 euros. Voilà. Alors, pour être sûr d'y avoir droit, vous pouvez utiliser un simulateur officiel qui a été mis en place. Je rappellerai que, alors, a priori, ça devrait concerner, mais on sait pas trop, 2 à 3 millions de personnes. Je rappellerai quand même qu'il y a en France 7 Français, 7 actifs sur 10 qui chaque jour utilisent sa voiture pour aller travailler. Donc, ça va être assez frustrant car la très grande majorité des gens qui bossent en voiture n'y ont pas droit.
Est-ce que vous allez faire cette demande? Est-ce que vous allez réclamer la prime gros rouleur? 32-16 pour le dire au GG. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce système des barèmes, de toutes les conditions pour l'avoir? Antoine?
Moi, j'aimerais saluer toute l'ingénierie publique, la force de l'administration française qui, après de nombreuses réunions dans des bureaux avec des gens extrêmement intelligents, a réussi à pondre le système et son simulateur. Bravo. Une mobilisation de tous pour produire ça en 2 mois. On en a parlé il y a 2 deux mois, voilà. Bon, Olivier, tu dis 50 euros le forfait. Moi, je sais même plus si c'est 50 ou 100 euros.
J'avais cru. Dépend. Alors ça, c'est pas très clair entre 50 et 100.
J'avais cru lire que c'était finalement un forfait unique de 100 euros. Bon, alors
c'est par mois,
pas très clair. Alors c'est même pas par mois. On ne parle finalement plus que d'un one shot, manifestement. Et donc 100 euros, ça pourrait représenter les fameux. Je vous fais ce qui s'est passé dans les bureaux là de l'administration. Ça pourrait représenter les fameux 20 centimes par litre annoncés sur 500 litres. Et 500 litres, c'est environ 8000 kilomètres. C'est les fameux 8000 kilomètres par an dont ils parlent.
Ils ont fait une règle 2-3, quoi.
Voilà, une espèce de truc. Ah, le ministre, il a dit 20 centimes. Les gens, ils font combien en moyenne? Ils font 8000. Eh bien, Josiane, sortez la calculatrice. nous allons faire l'opération et ça donne donc 100 euros. Alors, c'est un forfait unique. Oui. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps, la crise dans le détroit d'Ormuz, parce que les gens, là, ils ont juste récupéré 100 euros, peut-être s'ils gagnent pas trop d'argent. Bon, moi, je suis toujours complètement fasciné.
Ça fait déjà 3 mois que
mais
ça
oui,
dure.
Mais donc, c'est pour 500 litres, c'est pour 8000 kilomètres. En fait, c'est l'aide pour 8000 kilomètres. Je pense que l'aide, elle est déjà consommée pour beaucoup de monde.
Bruno ?
Je trouve que c'est un système injuste, parce que s'ils avaient baissé les taxes de 20 centimes, ça aurait touché tout le monde et peu importe tes revenus, parce qu'en fait
parce qu'on ne veut pas que c'est là une ministre qui a dit ça ou un ministre, on ne veut pas que celui qui va en 4x4 à Deauville le week-end en profite, hein. Ouais. Ça t'est dit, hein, tel quel, hein.
Oui, sûrement.
Et toi, l'homme de gauche, tu dois aimer ça.
Sauf qu'en fait, le problème, c'est que si tu déjà on parle de 2 à 3 millions. T'exclus plusieurs millions de personnes qui vont au travail tous les jours et qui, une fois qu'elles auront payé leur essence et tout, gagneront moins que celui qui a que les 16 000 euros qu'on demande à l'année, en fait. Parce que donc, tu vois, c'est cette espèce de marge. Mais c'est toujours la même chose. Tu entendras toujours les gens et ils t'appellent là pour te dire, bah, moi, je suis toujours au-dessus. Ah oui. Au-dessus de quelques centimes, quelques euros. Donc, en fait, j'ai le droit à rien. Bah, ça revient au même. Mais en fait, ce gouvernement.
C'est toujours des déçus.
Continue là-dessus. Et continue à faire la politique d'échec qui, aujourd'hui, arrête pas de nous dire, on est en déficit. Je pense qu'il y a mieux fait de baisser les taxes et puis de dire,
voilà, surtout. Un chèque réduit, on va dire.
Ouais, mais enfin, sauf que ils expliquaient l'autre fois qu'ils touchaient en ce moment ils touchaient de plus de taxes vu qu'il y avait plus le
mais il y a moins de consommation de consommation de carburant, ça a baissé de 30%.
Ouais,
les gens consomment moins de carburant.
Fiscale a disparu.
Ce qui est quand même dingue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un pont là, et on en est quand même à 4 ce mois-là, à chaque fois qu'il y a eu un pont, il y avait des bouchons. Donc à un moment donné, moi, tu vois, c'est un peu lunaire l'histoire.
Quand même, là, il y a une baisse.
Fatima, et puis ensuite on écoutera David qui est chauffeur routier dans la Somme.
Ils sont forts quand même de réfléchir aussi longtemps pour finalement proposer quelque chose où personne ne va être pleinement satisfait. Parce que même ceux qui sont dans la cible, comme il y a toute cette paperasse administrative, comme il y a tout ce c'est le formulaire B, B8, B12, même eux. Mais je crois qu'ils comptent sur ça. Ouais. En fait, ça leur permet de faire une annonce. Ils se disent finalement, ceux qui ont droit vont être découragés, vont se dire ah, de la paperasse. Ils comptent sur la phobie administrative des gens qui vont se dire ah, franchement, ouais, je vais pas aller me connecter.
Pour 100 euros une fois. Hein.
Mais c'est ça.
C'est un one shot.
Ils comptent sur ça. Ils comptent. Donc, du coup, ils vont faire une annonce, dire ça. Ce on a fait quelque chose.
C'est intéressant de savoir combien de personnes finalement ont touché.
Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont même se décourager, se dire ah, pff, allez,
c'est peut-être les mêmes que ceux qui collectionnent les coupons de réduction, qui vont à la caisse avec ça.
Eux vont y aller.
Voilà. Non, mais tu sais, en plus, ça tombe. On te demande de remplir ça au moment où tu remplis toi-même tes impôts. Tu vois, il y a une espèce de paradoxe temporel là, tu sais. T'es là, ouais. Tu remplis ta fiche d'impôt en disant ah bah dis donc, voilà. Et puis en même temps, on dit bah si vous voulez récupérer 100 balles, alors que t'es en train d'en donner pas mal à l'État, alors tu remplis encore des
fonds. Si vous récupérez, ils payent pas d'impôts, tu vois. Donc,
mais ils font ça pour pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y a plein d'aides. Il y a plein de gens qui ont droit à des aides qu'ils ne récupèrent jamais. Je vois dans la dernière fois, j'avais la liste des aides, mais à chaque fois, c'est plein de papiers pour 50 euros, même pour le sport des enfants, vous avez plein de choses que vous devez remplir et t'as ta charge mentale.
C'est un travail à temps plein d'être pauvre.
C'est le Hunger Game administratif. Et finalement, ceux qui vont se plonger dans ça, c'est effectivement ceux qui gardent les coupons.
Mais tu vois, tu dis ceux qui vont le demander sont ceux qui payent pas d'impôts. C'est là où il y a un problème. Parce que regarde le nombre d'indépendants qu'on a eu au téléphone, qui sont à leur compte, qui sont en voiture, et qui font largement plus de 30 kilomètres pour leur trajet, travail, domicile. Ils disent, mais attends, moi finalement, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui casque, c'est moi qui me déplace tous les matins, c'est moi qui paye mon argent, c'est moi qui ne peux pas répercuter ce que je paye en plus à la pompe, je peux pas le répercuter sur mes prix. Donc le baiser de l'affaire, c'est moi et j'y ai pas droit en plus, tu vois.
Mais je pense que
après ils ont peut-être envie de diviser les Français aussi, hein. Ouais, c'est-à-dire que là, on fait aussi des propositions. Enfin, moi, je suis plutôt.
Ne jamais penser au complot, toujours croire à la bêtise. C'est juste de la bêtise.
Moi, je crois, Fatima. Mais le résultat, c'est encore diviser les gens. Alors que moi, j'ai besoin d'unité de la
France. Moi, j'aimerais bien savoir au 32-16 si les gens demandent vraiment des chèques. Moi, je pense que majoritairement, les gens ne veulent pas de chèques.
Ils ont changé de mode de fonctionnement.
Ils veulent simplement pouvoir vivre décemment de leur travail. Et ils voudraient. Ils ont quand même bien compris que nous avons un carburant surtaxé, beaucoup plus taxé que chez nos voisins, et que c'est l'État qui pourrait simplement baisser les taxes, ce qui serait logique, ce qui a été fait d'ailleurs dans d'autres pays.
Bah en Espagne,
la plupart des pays autour de nous l'ont fait, et c'est normal. Alors bien sûr, ça a un coût. Enfin bon, soit on aide les gens qui travaillent, soit on les aide pas. C'est-à-dire que quand même en France, il faudrait commencer à se dire, il faut privilégier les gens qui travaillent.
David, bah justement,
eux qui font tourner le pays.
David, bonjour.
Bonjour.
Salut David, chauffeur routier du côté de la Somme. Est-ce que vous allez la réclamer, cette aide, ou autour de vous des gens vont la réclamer, dites-moi.
Oui, moi je la réclame pas parce que j'en ai pas l'utilité vu que je me déplace pas la journée à part en camion. Mais j'avais fait la demande pour mon fils qui travaille depuis le 1er janvier et qui a fait des études de licence et une première année de master. Eh ben il n'y a pas le droit, il fait 60 km par jour, mais il n'y a pas le droit parce qu'on m'a répondu qu'il n'a pas fait de déclaration fiscale en 2024. Mmh. Et je lui dis, mais c'est normal qu'il n'ait pas fait de déclaration fiscale, il faisait ses études. Alors que je dis que on m'a dit, il n'a pas le droit à la paie.
Voilà, le dispositif exclut ceux qui viennent de commencer à bosser, c'est sûr, parce qu'il faut avoir travaillé en 2024.
C'est comme ça, ils ont un effet d'annonce.
Allez-y, David.
Je trouve qu'on pénalise en plus les jeunes qui ont envie de bosser, qui sortent d'études et qui ont envie de bosser, qui a cherché du boulot pendant 3 mois, qui a fini par en trouver, et à la fin on lui dit écoute, désolé, mais toi tu n'as pas le droit, tu commences à travailler. Au lieu de les encourager, on les décourage.
C'est pour ça que la baisse des taxes aurait été plus juste, puisque ça aurait concerné votre fils, par exemple.
Ouais. Tout à fait. En plus, il ne faut pas oublier qu'on dit toujours que Total s'en met plein les poches, là, mais ce n'est pas les Total qui s'en met plein les poches, c'est le gouvernement. Les 72% de taxes sur un litre d'essence, je suis désolé, mais à un moment, il faut remettre les choses à l'heure. Quoi.
Non, puis, Total, en plus, il joue le jeu, c'est comme ça, mais Total, il bloque à 1,99 ou 2 l'essence la plupart des endroits en France. Donc, en tout cas, ils ont joué le jeu là-dessus.
Mais pourtant, Roland Lescure, qui était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe, a dit qu'il voulait surtaxer. C'est Total.
Il n'est pas opposé.
Il n'est pas opposé. Donc, s'il n'est pas opposé, il est ouvert. Donc, en fait, on détourne l'intention des gens en disant que le grand méchant de l'histoire, c'est Total. Bien sûr que le Total a fait des profits, mais les choses sont plus complexes que ça. C'est-à-dire que tout le monde en profite, l'État aussi.
Oui, mais David, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Merci.
David, bonne route. À bientôt dans les GG, à bientôt dans les grandes gueules. Mais finalement, tu te rends compte que tout ça, c'est subi et que finalement, les Français, ils ajustent. C'est-à-dire que
tu changes de mode de fonctionnement,
tu roules moins, tu restes plus chez toi.
Tu voitures.
Plus voiture, ou finalement, tu priorises tes clients, tu dis, lui, je vais le faire par téléphone, je vais pas aller le voir. Mais c'est subi. C'est contraint. Et derrière, quand le ministre de l'économie te dit que l'économie française résiste plutôt pas mal, c'est pas ce qu'on voit dans les chiffres aujourd'hui. Non. Donc soit on est dans le
couée.
Tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, on arrive dans une espèce de période où c'est même pas le déni, c'est je m'en fous, on n'est plus là dans un an. Tu sais, c'est ça c'est ça qui est terrible.
Ouais, mais ça fait 9 ans que c'est dur quand même.
Oui, mais
ça fait 9 ans que c'est dur.
De toute façon, constitutionnellement, ils vont tenir jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi on va faire une espèce de mesurette, verra ce qui se passe, et puis pour le reste, de toute façon, on gère les affaires courantes jusqu'à la présidentielle.
T'as des Bruno Le Maire qui est invité sur tous les plateaux, qui t'explique qu'il a bien géré, sauf que Bruno Le Maire, on est là-dedans, ce qui a été mis de l'économie, il a jamais dit non à Macron sur tout ce qu'il a posé. Tu vois Attal qui sait même pas la loi qu'il a imposée sur le chômage. En fait, tu vois, c'est gens, ils sont là sans être là, et quand ils arrivent, après, ils te demandent, toi, à partir de février-mars l'année prochaine, d'oublier tout ce qu'ils ont fait pour dire, si on est Élisée Attal ou Philippe, c'est des gens, on les a jamais essayés, super, tu vois.
Mais pourquoi est-ce que Roland Lescure, d'un coup, il te dit qu'il n'est pas opposé à une surtaxe de Total, alors que jusqu'à présent, ils ont dit le contraire.
Vous avez
mais oui, mais c'est pour ça.
Parce que on détourne l'attention. RAF,
donc vous voulez une surtaxe, je ne m'y opposerai pas, tu sais, l'élément de langage classique par excellence.
Et puis,
façon, on est quoi là? On est, on arrive sur début juin. Dans 15 jours, il y a la Coupe du Monde. Et les Français passeront à autre chose. On sera tous derrière les Bleus. On va arriver à l'été. Et à partir de septembre, c'est la campagne électorale. Donc, de toute manière,
ils ont quand même un budget à faire. Ils ont quand même un dernier budget à faire. Et moi, je crains le pire. Je vois que les entreprises commencent à tirer l'alarme parce que.
Mais l'Escure te dit que l'économie va bien.
Oui, mais l'Escure, il va vouloir faire payer les entreprises. Puisqu'ils sont incapables de faire des économies en expliquant qu'ils n'ont pas la majorité, etc. Tu vas voir que le budget qui arrive va être un budget redoutable avec encore des augmentations d'impôts.
Il était meilleur président de Canal Plus qu'en ministre de l'économie. Non,
le problème, c'est que ce sont les mêmes qui vont être étonnés.
Les deux
payent
pas leur dette, visiblement.
Ce sont les mêmes qui vont être étonnés après en disant on comprend pas la méfiance des Français envers les politiques.
Oui, ils votent pour les extrêmes.
On comprend pas les extrêmes, la montée des extrêmes. Oh, le populisme. Oh, la colère. Oh, les gilets jaunes. Oh, comme c'est surprenant. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça n'explose pas. En vrai. Ce qui est surprenant, c'est cette colère calme.
Jérôme, il nous appelle de l'Essonne, l'ami pâtissier. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Vous allez faire votre demande ou pas?
Non, pas du tout, certainement pas. De toute façon, c'est du temps perdu et je préfère garder mon temps pour faire autre chose. Mais c'est, ils nous prennent vraiment pour des ânes, quoi. Ce que je veux dire, c'est ils savent très bien qu'il y a soi-disant 3 millions de rouleurs. Il va y avoir quoi, 2,5 millions qui vont demander, et encore s'ils sont pas recalés. Et puis de toute façon, ils vont faire comment pour contrôler? Ils vont mettre un huissier derrière chaque personne, et puis ils vont dire attendez, je vais regarder le compteur, je vais le prendre en photo. Non, mais attendez, ils vont faire comment pour contrôler?
Rappelez-vous, Jérôme, au début de la crise, ils envoyaient des huissiers dans les, enfin des contrôleurs dans les stations-service.
Vérifier les tickets de caisse.
Ouais, les tickets de caisse, ouais, c'était bien
plus. C'était contrôler, souviens-toi, l'élément de langage, c'était nous allons contrôler les hausses pour qu'elles soient raisonnables. Hausses raisonnables.
Je crois que ce qu'ils sous-estiment, c'est qu'il y a pire que ne pas aider, c'est faire semblant d'aider. Vous voyez, quand quelqu'un t'aide pas, à la limite, t'acceptes. Mais quand quelqu'un fait semblant de t'aider, ou te jette des pièces comme ça, comme un mendiant, où tu dois faire 10 000 petites pirouettes et roulades administratives pour l'avoir, c'est encore plus parce qu'on rajoute à la détresse le mépris. Et une forme de mépris qui va finir par être insupportable. Donc moi, je veux bien qu'il fasse semblant d'aider et qu'il se dise que ça va marcher parce que c'est de la politique. Mais à un moment, humainement, c'est en train de craquer tout ça. Donc ils doivent se méfier de ça aussi, le mépris engendre la colère.
Et Jérôme, vous pourriez y être éligible à cette aide ou pas, vous?
Non, moi je gagne un petit peu plus, donc j'ai atteint les plafonds.
Combien de trop?
Faut un peu plus de 1000 euros, mais ce que je veux dire, c'est pas la question. De toute façon, moi j'ai droit à plein de choses, et comme vous disiez tout à l'heure, je les demande pas, je suis pas un mendiant, moi je travaille, je vis de mon travail, ma femme travaille, on veut vivre de notre travail. Comme je vous disais l'autre fois, ma femme maintenant elle prend le bus pour faire sa tournée d'auxiliaire de vie, et voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, son bus.
Elle lui prend plus de temps de prendre le bus ou pas, Jérôme, votre femme?
Ah, un tout petit peu, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit, c'est que le Pass Navigo, il est pris en charge à moitié par son employeur. Que l'État, on peut se taper sur.
Oui, mais c'est intéressant, mais est-ce que, par exemple, votre femme va pas continuer à prendre le bus, même une fois que le carburant soit moins cher, en disant c'est peut-être plus sympa de prendre le bus, plus reposant?
Si, elle va continuer. Plus sympa, plus reposant. Pas sûr,
non.
Mais, il y a un changement d'habitude qui va peut-être se maintenir, c'est ça que je veux dire.
Le stress d'arriver à l'heure, ça tourne correctement aussi. De toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut.
Vous avez deux voitures, Jérôme.
Non, j'en ai qu'une, d'accord. Façon, mais ce que je veux dire, c'est. Moi, je suis obligé de la prendre parce que je commence à 2h le matin, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est. Là, de toute façon, on n'a pas les moyens de s'en racheter une autre. De toute façon, c'est comme ça. C'est vu la conjoncture actuelle. Et comme vous disiez, l'État, Macron, depuis les législatives, il est en mode VRP, quoi.
Mais mon cher Jérôme, vous allez voir.
Il est en Afrique, il est joyeux, il est heureux. C'est pour lui, hein.
Et Jérôme, de toute façon, il ne se passera plus rien d'ici l'élection présidentielle. Merci. Jérôme, je vous remercie d'avoir été avec nous. Prime Gros Rouleur, enfin disponible. Est-ce que vous allez la réclamer, Jérôme? De toute façon, moi je suis même un au-dessus de trop nanti-bourgeois, mon cher Jérôme. Non, vous n'allez pas la demander, vous le dites à 87,5%. C'est dommage parce que le gouvernement comptait peut-être
ça,
là-dessus.
Donnez-moi.
Mais oui, Fatima, c'est ça. Donnez la prime. C'est Enrico.
Il faut les dégommer.
C'est tout ce que les Français veulent pas.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, faut-il climatiser la France? Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, elle dit qu'il y aura un grand plan climatisation pour l'ensemble du pays. Est-ce que c'est la solution face aux canicules? Quand les canicules s'emballent, il faut réagir.
Tiens, il l'a fait.
Il est 9h20. Il fallait la placer. Allez, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Il vous reste deux jours en comptant aujourd'hui, ça fait trois, pour gagner les packs Coupe du Monde ou 10 000 euros. La Coupe du Monde approche, les Bleus vont se lancer dans cette Coupe du Monde inédite sur trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, avec 48 équipes. Et pour être bien équipé pour cette Coupe du Monde, soit vous gagnez 10 000 euros, soit vous avez le pack Coupe du Monde avec le vidéoprojecteur, les maillots des Bleus, le ballon officiel, la boîte logo du trophée. Vous envoyez liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. Il reste encore quelques joueurs de l'équipe de France à découvrir dans le tableau. Faites-vous plaisir. Les cadeaux sont pour vous. 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde.
C'est long.
C'est bien ça.
Bon ça. Je sais pas si c'est l'IA ou pas.
C'est l'IA, me dit-on. T'en compte comme c'est bien fait.
C'est la fin des imitateurs.
Ouais. L'IA qui imite Johnny, allumer le feu, allumer la clim.
Nicolas Cantelou, si tu nous écoutes.
Voilà. Et c'est flippant. Hein.
Donc les amis, est-ce qu'il faut un grand plan climatisation? Dans tous les cas, ça fait plusieurs fois que Marine Le Pen le répète. Et si elle arrive au pouvoir, elle dit « je lancerai un grand plan climatisation pour l'ensemble du pays ».
Oui, en France, je ne sais pas pourquoi, mais les autorités, notamment les autorités locales, ont un problème avec la clim. Parce que tous les Français sont en train de s'équiper, quand ils en ont les moyens, de clim, notamment dans le sud. Là, ça cartonne. Hein. Les devis pour installer des clims explosent en ce moment. En plus, maintenant, il y a des clims réversibles, donc ça chauffe l'hiver et ça rafraîchit l'été. Sauf dans nos classes, par exemple. Alors ça, les maires qui, pourtant, chaque année, augmentent la taxe foncière, Riching a lancé des plans clim, puisque ce sont les maires qui s'occupent des écoles maternelles et primaires, pour soulager quand même à la fois le personnel éducatif et nos enfants. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que les parents peuvent passer la journée au frais dans leur entreprise et laisser leur enfant qui dans la fournaise de certaines salles de classe, et ça ne choque personne, parce que les enfants ne vont pas manifester ni adhérer à la CGT. Effectivement, il est peut-être temps de s'y mettre et de lancer un plan clim de vaste ampleur. Alors, bien sûr, ça va coûter cher, mais c'est des priorités dans la vie, d'autant plus qu'on nous explique du côté des spécialistes du climat que ces périodes de canicule vont se répéter.
Le plan clim, c'est, si l'État décide, c'est hôpitaux, écoles, maisons de retraite, transports publics, administration, ça fait du vent. Tu es pour ou pas, Fatima?
Alors, déjà, moi, ce qui m'agace toujours quand il y a des épisodes de chaleur comme ça, c'est de voir sur les plateaux des journalistes ou des politiques bien frais, avec eux, la climatisation, qui sont en train de dire « Ah, c'est bon, arrêtez de vous plaindre ». Et nous, de notre côté, être avec les élèves dans des établissements qui sont aussi mal conçus.
Oui, il y a aussi ça.
Ça veut dire qu'on a le même problème en hiver qu'en été, parce que c'est mal fait,
trop
c'est mal
chaud,
conçu.
L'été,
et puis,
trop froid.
Il y a des choses, même dans les cours de récréation où avant il y avait des arbres. Et là, maintenant, il n'y en a plus. L'arbre où il y avait de l'ombre.
Il n'y a pas d'arbre dans la cour de.
Ah bah non, pas du tout. Donc maintenant, certains, on est en train de rétro-pédaler, de se rendre compte que, effectivement, on remet des arbres et des choses comme ça. Donc moi, je trouve ça, elle a raison, Marine Le Pen, de s'emparer de ce sujet-là. Parce que on va avoir, ce ne sont plus des épisodes ponctuels. On n'est pas là, on est en train de changer complètement de monde, finalement. C'est de plus en plus tôt.
Donc, il faut s'y adapter.
Donc, bien entendu qu'on est obligé de s'y adapter, surtout pour les enfants. Et moi, je suis pour, on fait par priorité. Prioritaire, ce sont les, c'est même pas mes collégiens, ce sont les écoles primaires, parce que ce sont des petits, et plus encore les crèches. On parle pas souvent des crèches ici, mais les crèches pour les tout petits, alors elles se débrouillent comme elles peuvent, elles les rafraîchissent et tout ça, on les retrouve en petit body, voilà, il les déshabille et tout ça. Mais à un moment, il va falloir qu'on s'empare du sujet, bien entendu. Pas seulement avec la clim, parce que c'est un sujet global. Hein.
Toute cette population ne vote pas, tu comprends?
Oui, ben là, les populations vulnérables.
Les parents, oui.
Les parents, ils votent.
Les parents votent.
Monsieur Bruno.
Au-delà de la clim, moi, je pense qu'il faut repenser notre urbanisme aussi. En fait, et aujourd'hui, tu le vois, moi, je vois les bâtiments qui se construisent autour de chez moi, ça végétalise de plus en plus, on végétalise les toits. Donc en fait, ça permet d'éviter que la chaleur tombe directement sur ton toit. Tu végétalises aussi sur les côtés. Moi, quand j'étais gamin, la plupart des maisons, elles avaient du lierre. Alors on dit tout le monde, tu sais, ça met de l'humidité. Ben, on serait bien content aujourd'hui d'avoir de l'humidité avec du lierre sur ta maison, en fait.
Et donc, les vieilles écoles, tu sais, notamment à Paris.
C'est des préfabs, des fois.
Ouais, mais non, les vieilles écoles, c'est des grosses pierres. Et là, ils étaient prêts. Parce qu'on construisait différemment.
Mais en fait, c'est surtout ça, c'est que l'urbanisme. Moi, je pense qu'on a construit.
C'est 70-80 qu'on a fait n'importe quoi.
Ah oui, c'est quand on a fait cette espèce de maison. Alors, ils appelaient ça les maisons Mickey ou je sais pas quoi. Les maisons, c'est des plaques de fibro. Je veux dire, quand t'as mis ta plaque de fibro ciment, en fait, derrière, déjà, c'est pas épais. Puis en plus, ça chauffe à mort, en fait. Sans parler des endroits où il restait de l'amiante et tout. Oui, je pense qu'il faut surtout rechanger notre urbanisme, notre façon de construire. La clim, moi, perso, je suis contre. Hier, j'étais au taf, je perdais ma voix, moi, à la fin de journée. Hein. La clim trop forte, moi, je perds ma voix. Dans ma voiture, je la mets jamais. Dans les avions, à chaque fois, je tombe malade. Moi, la clim, je suis contre,
on
en fait.
Pas pour les fragiles de Vierzon, la clim en fait.
Voilà ce qu'on Vierzon, enfin moi quand j'étais petit, il y avait pas de crèche, on nous mettait dans la forêt et on se devait se battre contre un loup et quand on a tué le loup, on revenait avec la peau de loup sur la peau. Ça, Gerbier, il le connaît pas. Puis à Château, s'il avait tué une marmotte, c'était déjà grand. Donc,
Antoine,
comment enchaîner après ça? Moi, je suis très très partisan du plan climatisation et je vais même vous dire que moi, c'est la chaleur qui me fait plus peur que le froid. C'est-à-dire que vraiment dans notre pays,
qu'on comprend.
Dans notre pays, physiologiquement, moi, je souffre très régulièrement tout l'hiver de tous ces endroits chauffés à 21 ou 22 à l'intérieur. Chez moi, c'est chauffé à 18 grand max, ça suffit largement. Et en revanche, l'été, je monter dans un TGV dont la clim est en panne ou dans le métro pour venir l'été, c'est un enfer pour moi. Et vraiment, je considère que la climatisation doit être vue comme le chauffage. On ne laisserait pas quelqu'un crever de froid à 12 degrés. Et tout le monde dirait, oh, il n'y avait pas le chauffage, c'est honteux, etc. Ben, la climatisation, c'est la même chose. C'est le pendant de l'été. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est une conquête, c'est un progrès de pouvoir réguler la température dans laquelle on évolue. Et donc, la climatisation est un progrès. Je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, il y a encore des gens qui sont opposés.
Parce qu'il y a une réticence un peu idéologique de la part des écologistes qui disent que ça pollue, enfin que ça consomme de l'énergie.
C'est complètement faux, parce que notre énergie, elle est nucléaire. Alors, bien sûr, les écolos,
qu'aujourd'hui, on produit trop d'électricité. On
regarde,
en faire.
Tu as les systèmes de climatisation et on voit ça derrière
réversible.
Toi. Voilà, réversible, c'est-à-dire que ça balance de l'air ensuite à l'extérieur et c'est cet air que l'on balance à l'extérieur qui est responsable aussi du réchauffement climatique et de la destruction du CO2.
Non, alors, pour le coup, je crois au réchauffement climatique. Attention, je ne vais pas aller là-dessus, mais c'est pas parce qu'on sort de l'air chaud d'un appartement qu'on le met dehors qu'on fait du réchauffement climatique.
Oui,
alors,
oui, tiens, oui.
Vraiment,
c'est plutôt la chaleur qui produit
rien
la clim,
rien ne se transforme.
C'est les moteurs, le problème.
Non, pardon. Aujourd'hui, en sortant la chaleur d'un endroit, on réchauffe pas l'univers.
Consommatrice d'énergie.
Et moi, surtout, je voudrais. Je repense souvent à un truc. On a eu un grand plan chaudière au gaz. Pendant des années, ils nous ont gonflé pour faire des chaudières au gaz, etc.
Non, c'est fini, il faut tout chauffer
et maintenant, on nous dit c'est complètement faux, il faudrait des trucs réversibles, électriques. Eh ben, engageons-nous rapidement sur des trucs réversibles, électriques pour tout
le monde. Mais t'as vu, pardon, mais il y a eu une grande journée de l'électrification organisée hier. C'était mardi, Macron a réuni l'équipe de France de l'électricité. On voit que le mondial arrive, donc toute équipe de France. Équipe de France d'électricité.
Tous des numéros 10.
On n'a pas parlé de la clim. Toi. Ça a été l'occasion d'annoncer un plan clim. En plus, ça tombait bien, on est en période de canicule. Bon, ben là,
tu vois, je regardais ce matin en préparant l'émission, on se demandait quelles étaient les lignes de métro. On parlait de Paris qui était électrifié. Il y en a 5 qui étaient climatisées. Il y en a 5. Au Japon, 100% du métro à Tokyo est équipé. Toutes les rames sont climatisées. En Corée du Sud, à Séoul, les rames sont climatisées aussi et le Wi-Fi est performant et gratuit. Je dis ça juste comme ça. Aux États-Unis, les rames sont climatisées, mais pas les quais. Et en France, on a 2/3 des RER et des trains qui ont la clim. mais d'ici 2035, c'est 100% du parc TGV. Mais et
Madrid, le métro, il est climatisé.
On voit bien qu'on est quand même le tiers-monde de beaucoup de pays, notamment des pays asiatiques.
Et vous savez pourquoi ça n'avance pas? Parce que ceux qui en parlent ne sont pas concernés.
Exactement.
C'est-à-dire que, le dis, c'est comme pour les enfants.
Ils prennent pas le métro le matin.
Ils prennent pas le métro.
Ils n'ont pas d'enfants.
Pour les politiques qui viennent en taxi, c'est super agréable. Tu viens, il fait chaud dehors. Je caricature à peine. En fait, quand tu prends le métro et que tu es serré avec quelqu'un qui sue, qui sent mauvais, alors qu'il est 8 heures et qu'on est serré comme ça, t'as l'impression vraiment, physiquement, d'être du bétail.
Après, on la traite tous les jours.
Tu sens que t'es du bétail. Après, t'arrives dans ton école.
Combien
et c'est la même chose. Tu peux pas fermer les rideaux. Tu peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a le truc anti-suicide. Donc, t'es dans ce truc-là où on te dit, allez, suez tous ensemble. Et attention, parce qu'on n'est pas au mois de juin. Moi, j'ai les examens, là. Il y a le brevet. Ouais. Donc, t'as des enfants à moitié morts comme ça qui ont chaud et t'es en train de leur dire, toi, t'étais à deux doigts de faire la roue pour attirer leur attention et les réveiller. Tu fais des pirouettes. Et ils sont fatigués et tu les comprends, ils sont là et tu dis ah ben non, on est au mois de mai, il y a le brevet, donc
on va dans le Var à Toulon retrouver Antoine qui est moniteur d'atelier. Bonjour Antoine.
Bonjour les grandes gueules.
Est-ce que vous êtes pour un plan clim ou pas?
Alors mais absolument. Absolument, parce que de toute façon, je crois qu'il faut bien comprendre que au niveau du gaz ou du fossile, c'était mort, et que effectivement l'avenir, c'est l'électricité. Et en ce qui concerne la clim, moi j'ai travaillé pendant 20 ans avec des climaticiens, et le problème c'est que en France, on réfléchit toujours climatisation individuelle, alors que finalement, le coût d'une installation et son efficacité, elle est beaucoup plus importante quand on raisonne collectivement. C'est-à-dire que vous prenez un petit immeuble, vous avez 10 appartements, si chacun met la clim de son côté, ça va faire 10 unités intérieures, 10 moteurs extérieurs, 10 installations, alors que si on ferait collectivement, on mettrait un moteur principal sur le toit, chacun une unité intérieure, et ça serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus économique.
Et pourquoi on ne le fait pas, ça?
On ne le fait pas tout simplement parce que le français, il raisonne individuellement. C'est-à-dire que on ne sait pas, parce qu'il n'y a peut-être pas non plus aussi une volonté politique de dire, des constructeurs maintenant.
Non, mais ça, on peut proposer la copropriété si.
Alors, le problème précisément, c'est qu'en copropriété, généralement, il y a toujours une majorité qui va se dégager très difficilement parce que finalement ils disent non, ça va faire encore
des coups.
Et on raisonne toujours individuellement et c'est beaucoup moins efficace et beaucoup plus coûteux.
Pourtant, dans le Var, c'est une mesure que les copropriétés, effectivement, pourraient prendre.
Bien sûr, mais le climaticien, lui, il fait son devis, il dit, si vous voulez que je climatise l'immeuble, ça va vous coûter tant. C'est comme pour la pose de store, soit vous le faites individuellement, soit vous le faites collectivement. Et c'est vrai que c'est toujours plus intéressant quand on le fait collectivement. Les climaticiens, ils font des offres aux copropriétés pour faire de la clim collective. Et quand ça arrive en assemblée générale, faut payer, que finalement chacun se démerde. Enfin, excusez-moi des vulgaires, mais finalement on est perdant. On raisonne individuel alors qu'on devrait raisonner collectif. Voilà, c'est tout.
Après, c'est un choix.
Merci Antoine d'avoir été dans les GG.
Il a raison Antoine.
Non, mais il a raison pour lui. Mais moi, je peux te dire, c'est moi, ma copro, on fait un sondage.
Ce sera l'ordinateur qui dira non.
Non, mais je ferai partie de ceux qui diront, moi, j'en veux pas en fait. Moi, chez moi, le matin, il fait chaud, et à partir de midi, moi, le soleil, il a tourné. Moi, je suis à l'est. Moi, après, j'ai pas besoin de clim. Je vais pas mettre 10 000 balles. Je vais pas mettre 10 000 balles dans une clim.
Ça se dit de gauche.
Si les gens veulent une clim, ils veulent pas.
Non, mais ça va laisser les autres.
C'est la gauche non collectiviste.
Il faut regarder à combien ça revient dans la copro. Si c'est une affaire de 500 balles par appartement.
Nous, on vient d'avoir le ravalement. Je peux te garantir que moi, c'est ma copro. T'emmènes la clim déjà juste pour certains trucs.
C'est un bras.
Voilà, moi, le ravalement. Moi, je suis déjà encore. Je continue à payer mon ravalement. J'imagine bien que moi, dans ma copro.
Enfin, ton
ravalement. Nous, c'est pas un château, donc je vais te dire un truc, cousin. mais là, laisse tomber, en fait. Et puis, faut arrêter de rêver. En plus, je suis pas sûr, moi, que tu puisses faire une clim globale pour des bâtiments une fois que le bâtiment a été construit.
Le problème, c'est que c'est une pensée. La pensée politique, là, elle est intermittente et seulement quand il y a des crises. Quand il y a eu la canicule avec, mon Dieu, il y a eu plein de morts. Vous vous rappelez cet épisode de canicule 2003. Où il y avait des corps et des corps. Ces images-là.
Ils ont fermé des lits.
On attend toujours ces crises-là pour après se dire, on a peut-être un problème. Alors que, effectivement, c'est dès maintenant. Un problème qui n'est pas résolu ne disparaît pas.
Jean-François Copé, à l'époque, était porte-parole du gouvernement Rappard.
On va le voir tout à l'heure.
Merci d'avoir été avec nous, Antoine. Il est 10h20, on a posé la question. Climatiser tout le pays, un grand plan clim. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous y êtes opposé?
on va regarder. Vous dites oui quand même. Vous êtes pour à 80%. Dans un instant, on s'en fout. Ça, on s'en fout pas. Rester avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Il est 10h-20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules avec Fatima Ilbouzouan, la prof de français, Antoine Dierre, ce consultant juridique, Bruno Poncet, le cheminot. Voilà nos trois GG. Il est 10h moins le quart. Vous êtes avec nous sur RMC, RMC Story. C'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les journalistes météo de BFM TV insultés et menacés. On s'en fout pas, Antoine Dierre.
On s'en fout pas.
Bruno Poncet.
Vous pas du tout.
Et Fatima Ilbouzouan.
On s'y intéresse.
Eh bien, je vous explique pourquoi. On cause tout simplement les couleurs de cartes météo jugées trop foncées et donc alarmistes par des climato-sceptiques. Apparemment, quand il fait 36 degrés en mai, le climato-sceptique sort son nuancier Pantone au lieu de se demander quel était le problème. La Société des journalistes de BFM TV rappelle que le choix des couleurs se fait en fonction des normales de saison et sont fixées par Météo France et basées sur un consensus scientifique. Fatima, pourquoi on s'en fout pas quand même des journalistes menacés couleurs de carte?
Il y a l'absurdité totale. Déjà, ils sont pas responsables du choix des couleurs et c'est la violence. La violence, elle commence là aussi, dans la facilité qu'on a à dégainer une insulte, une menace pour des gens qui font leur travail, qui annoncent. Bah, pour moi, c'est du même ordre qu'aller menacer. Moi, j'ai les doigts qui gonflent quand il y a de la chaleur. Ça ressemble à des petites saucisses.
Ah, les knacky balls.
Ah, les knacky balls. Je vais pas aller menacer les journalistes. Pourquoi il fait chaud en ce moment? Pour moi, c'est du même ordre. Je trouve ça fou, en vrai.
Bruno.
Au-delà de ça, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les télés, les chaînes de télé en règle générale et les médias s'interrogent aussi sur les gens qu'ils invitent. Quand tu invites des gens qui, toute la journée, te répondent, oui, mais il n'y a pas de réchauffement climatique, machin et tout.
Il n'y en a plus beaucoup qui disent ça.
Excuse-moi, des fois, moi, je vois des gens qui écrivent des bouquins, on leur donne la parole pour des sujets qu'ils maîtrisent pas, et après, on est là. Mais même si toi, tu fais ton taf de journaliste, la personne, elle est là. Et comme les gens aujourd'hui, et on peut parler de populisme toute la journée, mais comme les gens aujourd'hui, ils en ont marre d'entendre des trucs qui leur vont pas, ils préfèrent écouter quelqu'un qui dira de la merde, mais qui sera dans leur sens. Quand t'as de plus en plus de gens qui croient que la Terre est plate, je pense qu'il faut pas s'étonner, à un moment donné, que la réaction aussi, et comme aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de nuances et que les gens sont dingues, entre les réseaux sociaux,
on menace de mort un journaliste météo parce qu'il a utilisé la couleur.
Mais on menace de mort un mec qui vient dans une émission de télé pour dire un truc que t'as pas envie d'entendre. Oui, excuse-moi, c'est là toute la journée. Alors, si toi t'as pas été menacé de mort une fois dans la semaine, tu dois être malheureux quand même. On est d'accord. Bah c'est ça aujourd'hui.
Je ne les compte plus.
Voilà, la société française, c'est ça. Donc, mais à un moment donné, moi je pense que imaginez aussi que peut-être qu'il faudrait peut-être remettre un peu de science à la télé et des fois inviter des gens qui sont peut-être plus scientifiques que le guignol de plage qui a tué un alligator avec un couteau, tu vois.
Mais non, mais pardon, mais alors il y a des dingues en liberté, menacer un journaliste, un présentateur météo, c'est absolument inadmissible, mais moi, c'est la première fois que j'entends l'explication de cette carte. Je suis normalement intelligent et moi, le premier, je me suis dit, ouais, quand même, ils nous mettent tout rouge tout le temps, c'est un peu bizarre. Et en fait, personne jusqu'à récemment, je l'ai vu hier sur BFM TV, personne jusqu'à récemment n'expliquait largement que la coloration était liée à l'écart de température, à la moyenne de saison. Ouais, et bah là, d'un seul coup,
enfin, en même temps, même si on te le dit pas, tu peux le comprendre en voyant les nuances de couleur.
Même moi qui suis normalement intelligent, j'avais tendance à me dire, oh, c'est bizarre, tout le rouge qu'ils mettent quand même.
On enchaîne.
Faire un truc.
Sûrement que cet été, la même carte serait moins rouge.
Exactement. Voilà. J'ai compris le système.
Allez, on enchaîne.
Ça fait 50.
Si j'étais riche.
Bruno, ça fait rêver, hein. Le nombre de moins de 30 ans ayant déposé un dossier de surendettement a bondi de 36% en un an selon la Banque de France. Antoine, le jeune autour de la table, on s'en fout pas. Bruno,
on s'en fout pas.
Et Fatima.
Non, on s'y intéresse.
On cause la multiplication des paiements fractionnés pour des petits achats. Vous en avez sûrement tous fait un au moins une fois, non? Un petit paiement en 3 fois, un petit paiement en 4 fois, Bruno?
Jamais. En 20 fois, moi.
Oui, voilà.
En 20 fois. Je paye pendant 20 fois.
C'était pour acheter des espadrilles.
Voilà, c'est ça. Non, c'était pour payer mon plein d'essence.
C'est ça.
Ouais, non, mais c'est une illusion de liberté financière. Et puis aussi, c'est fait assez à la va-vite avec une absence de vérification de solvabilité. une accumulation des frais parce que t'as oublié que t'en as déjà fait un il y a 3 mois et à la fin tu es surendetté. Antoine, comment cette jeunesse peut s'en sortir?
Quand tu as présenté le sujet, je me suis dit ben, comment on peut être surendetté à 30 ans? Enfin pardon, ça me dépasse. Et effectivement, tu expliques tous ces petits crédits qu'on voit passer aujourd'hui. Eh bien, je remercie mes parents pour l'éducation et notamment l'éducation financière qu'ils m'ont donnée. Ils m'ont toujours expliqué, on ne prend un crédit que pour une maison, à la limite une voiture, mais on ne prend un crédit que pour un gros achat. C'est un truc, c'est carré chez moi et on a toujours rejeté ces petits crédits. Et donc oui, tous ces petits crédits sont des arnaques et je suis désolé pour tous ceux qui sont tombés dedans, mais gardez en tête quoi, tous ces petits trucs, faut pas y aller. Voilà.
Bruno Poncet.
Bah en fait, c'est un phénomène de société. Parce que déjà, quand t'achètes quelque chose, et même pas très cher, même une paire de pompes, on te propose un 3-4 fois sans frais via des applications qui ne sont là que pour ça. Donc déjà, tu commences comme ça.
Non mais c'est tentant.
Ben oui, mais surtout, c'est que... Comme
si tu ne peux pas l'acheter sans le crédit, c'est que tu ne dois pas l'acheter.
C'est ton point de vue à toi.
Non mais parfois, tu te dis... Je peux l'acheter, mais c'est mieux de le répartir pour 3-4 mois, tu vois.
Et puis, il n'y a pas que les jeunes, mais je pense qu'à un moment donné, tu as des gens aussi qui, aujourd'hui, veulent continuer à consommer malgré une perte de pouvoir d'achat et qui trouvent cette solution-là. Moi, je suis désolé, mais malheureusement, on n'en est qu'au début. Parce que de toute façon, aujourd'hui, tu verras qu'un jour, on perdra nos courses en plusieurs fois comme ça. Parce que les gens, aujourd'hui, avec le fruit de leur travail, ne peuvent plus vivre décemment. Et ça va augmenter, ces gens-là, le nombre de personnes qui vont galérer. De toute façon, l'essence, si quelqu'un un jour me prouve que l'essence va redescendre en dessous des 2 euros dans les 2 prochaines années, je peux te garantir, je suis prêt à manger mon chapeau. Hein.
C'est un vrai sujet très important et je pense qu'à l'avenir on va en parler parce que ce soit ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens ou ceux qui ne parviennent plus à vivre décemment à partir de leur salaire, on a deux gros problèmes de société. Moi j'ai eu un peu la même éducation qu'Antoine, donc effectivement d'un point de vue financier, oui, pas de crédit.
Je suis très frileuse
et pour moi c'est le danger, le cercle vicieux. Ah oui. et effectivement ça m'a protégée d'une certaine manière. Exactement. Donc mais aujourd'hui on nous vend le crédit, on nous propose, le crédit vient aux jeunes, on leur propose, il y a des facilités. C'est plus facile d'obtenir un crédit finalement que d'être remboursé pour l'essence, j'imagine. Exactement. En termes de papier, c'est à proposer. Ah bah oui, c'est ça qui est complètement fou.
C'est des organismes, c'est en deux clics.
Ah mais c'est ouais. Ça.
On te dit, oui c'est bon, mettez votre carte, même, votre adresse.
Et même pour les usurpations d'identité, les gens qui se font usurper leur identité et après on prend des crédits à leur nom, on arrive à prendre des crédits à leur nom parce que c'est trop facile. Donc il y a ce problème-là aussi.
On finit, Louis.
Allez, on finit avec une bonne nouvelle. Les centres-villes se redynamisent, Fatima. Ça t'intéresse?
Oui, et je trouve ça génial.
Bruno, on s'en fout, on s'en fout pas.
Non, on s'en fout pas du tout.
Et Antoine Dierz.
On s'en fout pas.
65% des Français restent attachés à leur centre-ville, avec 71% des sondés qui affirment y aller au moins une fois par semaine. C'est plus qu'en 2023, donc on progresse, mais surtout, c'est le taux de vacances commerciales dans les villes moyennes et petites villes qui est passé... de 14-15% à 11-12%, donc il y a une baisse. Donc voilà, on est sur un petit redémarrage.
Les commerces reviennent un petit peu.
Mais voilà, les centres-villes vont un petit peu mieux, Antoine Dierz.
Moi, je vis en plein centre-ville de Dunkerque. Je suis un fanat de centre-ville. On peut difficilement vivre plus proche. Je suis juste à côté de la plage Jean Bar. Et j'adore cette vie de centre-ville où je descends chez mon boucher, je vais au hall alimentaire, je fais tous les petits commerces. Et donc, voilà... Dunkerque, t'as une ville moyenne avec un centre-ville qui vit bien. Il y a un peu de vacances, mais voilà, ça semble remonter. Il y a un seul truc, c'est je voyage un peu dans le pays, c'est l'uniformisation avec les mêmes enseignes partout. C'est le danger, c'est peut-être franchise. Ça. Quoi. J'ai plus envie de voir la même franchise partout. Je veux trouver
même quand
le chausseur
voyages en
historique.
Europe aussi maintenant.
Oui, bah oui pareil.
Dans
pareil.
Toutes les villes européennes.
J'étais à Budapest, j'ai passé un week-end à Budapest. Tu trouves aussi les mêmes enseignes.
C'est samedi qu'il fallait y aller.
Et ça, c'est complètement rageant parce qu'en fait, tu ne retrouves plus d'authenticité en centre-ville et c'est peut-être ça qui fera perdre les centres-villes à terme.
Beaucoup de quartiers se ressemblent désormais partout. Bruno.
Alors moi je suis passé à Vierzon là, il y a 3 semaines, le centre-ville qui n'est déjà pas très grand.
Ah, c'est pas Los Angeles non plus, détends-toi. Là,
ni Châteauroux.
Ni Châteauroux. Mais il n'y a pas grand-chose d'ouvert dans le centre-ville de Vierzon.
Mais malheureusement, à Vierzon, comme à beaucoup d'endroits, c'est la mairie qui a tué son centre-ville en faisant des zones commerciales autour, qui d'ailleurs ont périclité à Vierzon entre autres. Et donc en fait, à un moment donné, les mairies aujourd'hui qui se plaignent que le centre-ville n'est plus visité, il faut qu'ils arrêtent aussi de créer des espèces de centres commerciaux aux alentours, qui aujourd'hui ferment les uns après les autres parce que les gens n'achètent plus dans les grandes... La plupart des magasins explique, nous ne sommes plus que des cabines d'essayage. Les gens regardent, ils voient la taille, et après ils commandent sur Internet parce que c'est moins cher. Moi, ce week-end, je suis dans une grande ville française qui s'appelle Toulouse. Ils ont gardé un centre-ville actif avec beaucoup d'indépendants. Je peux te garantir que c'est hyper réjouissant parce que tu te dis, enfin, tu as beau aller dans ce centre-ville de Toulouse qui est exceptionnel, parce qu'en plus c'est très beau, enfin, la ville rose, tout le monde sait pourquoi. Mais en fait, tu te retrouves avec des magasins, des indépendants. Donc, t'as pas ces grandes firmes qui sont partout, tu les as quelque part. Hein. Comme partout, t'as des grandes zones, t'as une grande rue commerciale. Mais t'as ces... Donc, moi, je pense que redynamiser ces centres-villes, c'est aussi arrêter de réfléchir, comme tous ces cons ont fait pendant des années, à écloter ça avec des zones commerciales qui ont tué leur ville. Ben, moi, je suis désolé, Antoine, il parlait des commerces de bouche, mais pendant longtemps, les gens disaient, le commerce de bouche, ça sert à rien que j'aille chez mon boucher, j'ai au supermarché, voilà, ben non. En fait, c'est intéressant de voir des villes qui maintiennent quand même leur centre-ville.
Fatima.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'aime beaucoup les centres-villes, même Poitiers. Poitiers, c'est parce qu'on a parlé de toutes les villes. Centre-ville de Poitiers. Moi, ça me déprime parce que parfois, j'ai voulu montrer centre-ville de Poitiers en disant, tu vas voir, Poitiers, c'est extraordinaire. Et j'ai montré à des amis et c'était vide à ce moment-là. Il y avait un canard en plus. Ils m'ont dit, il y a un canard qui se balade. C'était vraiment déprimant.
C'était sauvé de la boucherie.
Donc, effectivement, pour s'en sortir. Non, mais c'était terrible. Ah bah parce que horrible. Moi, je voulais faire la promo et la réalité venait fracasser mon imaginaire. Donc, non, effectivement, tout ce qui était ringard avant, je pense que le monde d'après, si on veut survivre, il faut renouer avec l'authenticité, l'humain, le côté unique aussi, des petites
après le Covid,
boutiques.
Hein. Bah, après le Covid, tout le monde dit, ça va revenir. Bah, 6 ans.
Après, ça ne reviendra pas tout seul.
Suite des GG dans un instant, avec Fatima Hidbounois, Bruno Poncet, Antoine Diers. On va regarder cette tragédie, la mort de Théo, 11 ans. Il était parti pêcher avec deux camarades de 15 et 16 ans sur les bords de la Vilaine. Il a été étranglé. Il est mort pour une histoire de l'heure de pêche. La violence chez les jeunes, on en parle avec vous au 32-16.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.